Je suis papa de deux enfants, donc un qui a 3 ans et puis une petite fille qui a 15 jours. Mon objectif là, c'est de faire le Vendée Globe 2024. La chance de faire déjà 2 tours du monde à la voile en équipage. C'est largement accessible, je suis capable de le faire. J'aime bien relever des défis, donc je voulais relever celui-là. Donc handicap agir ensemble, c'est le fil conducteur quoi.
Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marsay, produit et réalisé par Audio Tactique.
C'est admirable, quoi. Franchement, je dis chapeau.
Alors c'est vrai que notre dernière course, ça a été la Rolex Fastnet Race, qui était un peu la plus grosse course de préparation avant la Jacques Vabre. Bah déjà, le bilan qu'on en tire, c'est qu'on s'est qualifié pour la Jacques Vabre. On a qualifié notre duo avec Romain et puis le bateau pour la Transat Jacques Vabre. Donc c'était un peu l'objectif principal. On s'est bien amusé, donc c'est quand même aussi important de prendre du plaisir, parce que c'est un facteur qui pousse à la performance, je pense, quand on s'amuse. Donc c'était une très belle expérience avec Romain. On a retrouvé un peu la complicité quoi du duo qu'on a en mer. Puis bah c'était une course qui était quand même assez engagée hein, parce que déjà il y avait toute une complexité à arriver sur la ligne de départ qui était en Angleterre, qui n'avait pas d'escale possible en Angleterre, à la fois pour les raisons sanitaires, logistiques, tout ce qu'on veut. Et puis surtout les conditions météo qu'on a rencontrées, parce qu'il y avait un flux de secteur ouest-sud-ouest modéré à assez fort. Donc on est parti de Port-la-Forêt, on a rejoint Cherbourg. De Cherbourg, on est parti vers Cozes. Et donc ne serait-ce que traverser la Manche, on l'a fait dans 30 nœuds au vent de traverse, qui est assez rock'n'roll sur ces bateaux-là. Le départ, et ben là on était au près, dans le Solent, dans un vent toujours de 25-27, claque à 30-32, avec un courant qui commence à porter vers les fameux cailloux qui s'appellent les Needles, qui sont la pointe ouest de l'île de Wight. Et une flotte, c'est 350 bateaux, le Fastnet, donc une flotte très très dense. Finalement, le départ, c'était presque une délivrance, parce que ça signifiait la fin de cette période d'attente proche de la ligne, avec toute la flotte de ces bateaux réunis, le courant, le vent fort. Et donc on a fait un bon départ, on est sorti dans le Solent. Alors, faut savoir que la durée maximale du bord, c'était environ 3 minutes, vu la largeur du bras de mer et puis la force du vent. Et il s'est trouvé qu'on avait donc de nombreux virements de bord à faire dans ce bras de mer. Et dans l'un de ces virements de bord, à l'entrée du virement, on choque l'écoute de J3. C'est donc grand voile de riz et J3. On choque l'écoute de J3 pour virer de bord. Et l'écoute de J3 est venue claquer dans la grand voile et l'a déchirée au-dessus du point d'amure de riz 2. Ben, on a vu ça à la sortie du virement. C'était pas une super nouvelle, parce que c'est pas une bonne nouvelle de casser sa voile au tout début de la course. L'avantage qu'on avait, c'est qu'à ce moment-là, on était sur de la mer plate, parce qu'on était dans un bras de mer assez restreint, donc sur de la mer plate. Et on a essayé de patcher, mais bon, il y avait les embruns sur le pont, c'était impossible de réparer. Donc finalement, on a pris le troisième riz pour finir de sortir du Solent. Et donc à partir de là, on a un peu dégradé notre performance, quoi. On a passé les Needles néanmoins en très bonne position, je pense qu'on va être quatrième peut-être. Donc c'était super. Mais après, on savait qu'on avait ce riz 3 qui était pris, qu'il fallait larguer, et surtout qu'il fallait réparer la grand voile, parce qu'elle n'allait pas tenir comme ça, quoi. On est parti sur un long tribord à mur qui nous est passé par le Rat Blanchard et puis à atterrir sur la côte nord-bretonne. Et bon, en voyant tout le monde qui revenait, on s'est dit faut réparer. Donc on a pris le temps, on a abattu, on s'est mis plein vent arrière et puis on a fait notre réparation comme on pouvait, hein. C'est vraiment de la bricole, c'est de l'insignia et du Sikaflex tartiné sur une grand voile qu'on a asséché comme on pouvait avec des chiffons et puis un peu de dégraissant, quoi. Ça c'était notre pépin technique de la course qui nous a handicapé, surtout qui nous a fait perdre un peu le train dans lequel on était au niveau du classement. Ces bateaux qui vont quand même relativement vite, donc quand on s'arrête ne serait-ce que 20 minutes, que les bateaux vont à 16-17 nœuds, tout de suite ça fait de l'écart. Donc voilà, on a eu ce petit souci technique et qui est mine de rien intéressant à avoir, parce que c'est pas comme si on avait fait une erreur de manipulation, quoi. Il y a vraiment une faiblesse. Le J3, quand il bat et l'écoute, je peux pas la contrôler à ce moment-là. Donc, faut qu'on mette, je pense, des renforts dans la grand voile pour que ça se reproduise pas. Donc voilà. Et puis ensuite, bah, sur le reste de la course, je pense qu'on est globalement content de la performance du bateau par rapport aux autres bateaux, du potentiel qu'on peut en tirer par rapport au temps de navigation qu'on a dessus. Ce qu'on aurait pu plus soigner, c'est nos trajectoires. Voilà, on a fait des erreurs à l'approche de Land's End où le vent était cisaillé sur le plan d'eau. Donc, c'est-à-dire plus j'étais sous le vent, plus j'avais du refus. Plus j'étais au vent, plus j'avais de la donnante. Et à un moment donné, en naviguant en ligne droite vers la marque, on a fait le choix d'accélérer un petit peu, donc d'abattre un petit peu. Et puis, ça nous a coûté à la fin du bord parce qu'on a dû virer de bord, faire du tribord à mur face au courant. Et donc, ça nous a pénalisé. C'était notre première erreur un peu stratégique. Et puis un deuxième passage qui n'était pas évident non plus, c'était au retour, le passage du Rat-Blanchard avant d'arriver à Cherbourg, où on avait un courant très très fort traversier qui du coup faisait mollir complètement le vent. Et il y avait un peu deux parties prises, c'est-à-dire soit se laisser porter par le courant complètement, mais ce qui signifiait faire une route vers le nord-est, alors que notre objectif était à l'est-sud-est, ou alors une trajectoire un peu plus contre le courant, donc un peu moins rapide, mais plus proche de la route. Et voilà, on a fait un peu entre deux un compromis, et puis on s'est fait redépasser par Initiative Cœur, qui lui a décidé de faire une route plus longue mais plus portée par le courant, et on les avait dépassés dans la nuit précédente, et là ils sont revenus sur nous à quelques dizaines de milles de l'arrivée. Donc voilà, il y a ces deux passages qu'on aurait pu un peu plus soigner, mais je pense que globalement ça met un peu en avant le fait que jusqu'au Fastnet, on n'avait pas eu beaucoup de confrontations avec d'autres bateaux, et que pour soigner ces moments-là, il faut multiplier les situations, quoi. Donc voilà, mais globalement, c'est un bilan très positif du Fastnet, et vraiment, on s'est régalé, quoi. Il y a des bateaux de génération plus récente que le nôtre qui ont été contre-performants. Je pense à Hugo Boss, notamment, qui a été quasiment inexistant. Il y a des bateaux qui ont été très impressionnants. Enfin, il y a un bateau qui a été hyper impressionnant, c'est Apivia. C'est Apivia parce qu'en termes de trajectoire et de performance, franchement, quelques minutes après le départ, je vois Apivia qui décolle, quoi. Tu vois, mais vraiment littéralement, donc au près, certains bateaux décollent facilement, d'autres un peu moins, voilà. Mais t'as un compromis à trouver entre quel cap je fais, est-ce que je serre le vent et je décolle pas, ou est-ce que j'abats et je décolle, auquel cas je gagne beaucoup de vitesse. Et en fait, je pense qu'ils ont eu l'intelligence de faire dès qu'ils ont eu de la place, ils se sont mis sur le mode volant, donc un peu plus abattu mais très rapide, avec un meilleur VMG, donc avec un meilleur gain dans l'axe du vent. Et en fait, ils ont fait des bords comme ça, et tout de suite, ils se sont mis hors du paquet devant. Ils ont plus été gênés par la flotte, quoi. Et après, ils ont déroulé avec une stratégie très solide et une bonne vitesse. Et franchement, l'avance qu'ils ont eue, c'était impressionnant, quoi. À voir, moi, je me souviens, quand ils passent au Fastnet, je me demande s'ils n'ont pas eu presque 100 000 d'avance sur nous, quoi. Peut-être à 60 ou 80, quelque chose comme ça. Mais ouais, franchement, ils ont été à plus vite, ils ont été hyper impressionnants. D'un point de vue sportif, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est souvent la difficulté, hein, de se préparer avec, en ayant un port d'attache fixe, c'est de naviguer à des angles de portant et de reaching rapide, parce que ça implique de revenir à son point de départ. Et donc, comme on va plus vite quand on est au reaching, quand on est travers au vent, poussé par le vent, que quand on va contre le vent, bon, bah voilà, faut... Si le vent tourne pas, on passe beaucoup plus de temps à naviguer à des angles serrés qu'à des angles très ouverts. Donc il faut trouver des opportunités pour naviguer à ces angles de vent-là, et surtout dans des conditions plutôt ventées, parce qu'on sait qu'on s'entraîne là sur la fin de l'été, qu'on va partir en automne. Dès qu'il y a des créneaux de navigation ventés, c'est bien de les prendre. De la confrontation, ça va être le cas, parce que voilà, on a encore des courses, encore une course à venir avant la Jacques Vabre, et puis on a pas mal de stages d'entraînement au centre d'entraînement de Port-la-Forêt, où qui regroupe les meilleurs IMOCA actuels. Donc je pense que la confrontation avec d'autres bateaux, c'est ce qui va nous amener le plus à progresser, quoi. Nous, faut qu'on soit à la hauteur du potentiel du bateau. L'objectif, c'est d'être au départ du Vendée Globe 2024. J'ai un groupe de partenaires qui s'est formé tout au long de l'année, depuis la fin du Vendée Globe 2020. Notamment, le point de départ, ça a été cette conférence qu'on a mis en place qui s'appelait Communiquer avec le Vendée Globe, en réunissant un certain nombre d'experts sur le domaine de la course au large, et qui a été un peu le point de départ ma recherche de partenaires en vue du Vendée Globe 2024. Aujourd'hui, on a donné un nom à ce club de partenaires, donc il s'appelle Cap Agir Ensemble. Il a également une identité visuelle, un logo, une charte graphique, un podcast. Et on mène très régulièrement, enfin même mensuellement, des réunions où on s'est réunis tous pour discuter des actualités, du projet et puis un peu du travail que chacun mène. Parce que chaque partenaire qui fait, j'ai la chance que chacun des partenaires qui est membre de Cap Agir Ensemble s'investissent dans un domaine. Alors on parle de communication, de prospection, d'engagement vis-à-vis de l'association qu'on soutient, donc l'ADAPI et son fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. Sur la mi-août, je me suis rendu compte que peut-être tout le monde n'avait pas la vision du projet aussi clair que moi je l'ai, de notre projet commun. Et donc, je profitais un peu de la quinzaine de jours de congé un peu au vert pour structurer un peu mieux le projet, définir des rôles, des responsables de chacun de ses pôles. Et puis, tout simplement, faciliter la mise en relation et faire en sorte que l'information circule mieux au sein de Cap Agir Ensemble. Et ça a été assez sympa parce que ça m'a permis d'avoir des temps d'échange un peu privilégiés avec chacune des personnes. Et puis, notre dernière réunion qui remonte à la semaine dernière et qui, du coup, a été très, très riche par rapport à celle qu'on avait pu mener précédemment. Et qui, je pense, va encore pousser un peu plus les membres de Cap Agir Ensemble à s'investir dans le projet. C'est un travail qui est assez éloigné de la navigation, du cœur de métier d'un coureur au large, mais finalement, il est très intéressant parce qu'il fait quand même appel à pas mal de compétences, de connaissances que j'ai pas forcément naturellement. C'est un peu il y a un peu de management quoi que je découvre moi au fur et à mesure, et puis que les membres de Cap Agir Ensemble aussi m'aident à acquérir. On coordonne un peu notre équipage. On est sur le bateau Cap Agir Ensemble. On coordonne notre équipage entre celui qui fait la navigation, celui qui fait les réglages, celui qui fait la déco du bateau, quoi. Franchement, l'équipage pourrait encore s'étoffer largement, je dirais. Je suis à la barre et puis deux moussaillons quand même qui sont, tu vois, aguerris dans leur domaine. Et c'est là où il faut avoir savoir faire confiance aux gens qui ont les compétences, quoi, tu vois. Au sein de Cap Agir Ensemble, il y a des gens qui ont des compétences que je n'ai pas. M'appuyer sur leur savoir-faire pour faire grandir le projet, le faire aboutir, quoi. Ouais, donc effectivement, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, je pourrais vous présenter les rôles que chacun et chacune ont pris au sein de Cap Agir Ensemble, les entreprises auxquelles ils sont attachés et ce dans quoi ils s'investissent dans Cap Agir Ensemble. Actuellement, on fait beaucoup de roadbook, de formation météo, en vue de la Transat Jacques Vabre. Donc on a un nouveau parcours cette année qui passe par Fernando de Noronha, donc qui implique des différences au niveau angle de vent, courant, tout ça. Donc tout ça, on l'étudie, donc c'est quand même appréhender un élément naturel qui est l'océan et ses spécificités, donc le vent, les vagues, le courant. Et dans ces spécificités, il y a quand même un sujet qui devient de plus en plus prédominant pour certains secteurs dans lesquels on navigue, c'est les algues et notamment les sargasses et les échouages aux Antilles qui sont assez problématiques parce que prive des accès au littoral ou engendre des échouages massifs et des algues qui du coup pourrissent et du coup localement pose un problème, que ce soit aux locaux, je dirais, ou aussi pour le tourisme dans ces îles. Et nous, les sargasses, elles nous posent également problème au large, en mer, parce que ça peut être des chapelets très, 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 très importants qui s'étendent dans le sens du vent, souvent. Il y a ce qu'on appelle un peu une ancre au vent, la partie au vent, donc un gros amas au vent, et puis qui s'étire en fil plus ou moins dans l'axe du vent. Et il peut y en avoir sur des surfaces très, très étendues. Nous, pour un bateau, alors en plus un foiler qui ratisse avec ses foils, la quille et les safrans, C'est problématique parce que moi j'ai navigué dans des zones à forte densité de sargasses, notamment lors de mes précédentes navigations autour du monde en remontant, en repassant l'équateur. Et des bateaux de cette taille-là, ça peut les arrêter, quoi. Ça engendre des pertes de vitesse, évidemment, des pertes de contrôle. Et puis c'est problématique pour les enlever. Et aussi c'est problématique pour les détecter parce qu'aujourd'hui on a des images satellites qui nous permettent de voir ce qu'il y a à la surface de l'eau. Donc on avait commencé à utiliser ces images-là pour faire des détours, éviter, en se disant là il y a trop de sargasses. Et en fait il y a aussi des sargasses qui sont pas flottantes mais un peu en dessous le niveau de la mer, quoi. Et donc du coup qui sont moins détectables par les images satellites. Et donc du coup on en vient à se dire qu'est-ce qu'on en fait finalement de ces images? Est-ce que je les exploite pour faire des détours? Est-ce que mon détour il va être je vais vraiment rencontrer moins de sargasses, ou alors est-ce que c'est peine perdue? Sur un parcours tel que celui de la Jacques Vabre, je pense que ça va être un dossier. Et puis moi j'ai pas une connaissance, je suis pas expert de sargasses, mais j'essaye de me renseigner sur des sites divers et variés pour trouver de la source d'information. Ce dont j'en ai compris, c'est qu'a priori, c'est quand même le fait qu'elles pullulent ces algues, c'est lié au fait que des engrais utilisés pour l'industrie agricole à terre ruissellent et se retrouvent dans des grands fleuves, notamment celui de l'Amazone, et sont ensuite déversés dans les océans et du coup font office d'engrais pour les algues et les sargasses, quoi. Donc voilà, c'est un sujet qu'on a, parce qu'il y a eu des échouages massifs, alors je me souviens plus des années, mais qui ont vraiment posé problème, hein, et pour la pêche, je pense que pour l'environnement, même maritime, ça a forcément une incidence. Il y a des bateaux qui se sont retrouvés coincés dans des bancs de sargasses et à dériver avec le banc et ne plus pouvoir rien faire parce que ça s'enroule autour de l'hélice. Le bateau, il est plus manœuvrable à la voile parce qu'il est emprisonné. Et c'est vrai. Et donc, nous, on est un peu témoins de ça. Et c'est vrai qu'en mer, je m'en souviens sur la Jacques Vabre 2019, donc il n'y avait pas le même parcours parce qu'on allait au Brésil. Donc, on allait quand même un petit peu moins dans l'ouest de la partie océan Atlantique, au nord de l'équateur en tout cas. Un matin, on se réveille et puis on commence à voir quelques sargasses. Au début, c'est pas grand chose, c'est 2-3 filaments qui traînent dans l'eau, qu'on voit pendant le quart. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure du temps, la densité augmente. On se dit, non, j'ai pas envie d'être confronté à ça parce que c'est vraiment embêtant et pénalisant. Il y a quand même une saisonnalité au fur et à mesure de l'année, et il y a des années où il y en a beaucoup et des années où il y en a un peu moins. Mais je pense que globalement, quand même, si on regarde sur les 10-15 dernières années, la présence de sargasses est croissante, quoi, en moyenne, quoi. Après, il y a des années où ça redescend un petit peu, puis d'autres où ça remonte un peu plus. Moi, l'année où j'en avais vu le pire, c'était en 2015, je pense que c'était une forte année à sargasses. Et elles ont certainement une raison d'être dans notre environnement global. Par contre, je pense que le fait qu'elles croissent, ça pose de nouveaux problèmes. Et notamment, je sais que sur les échouages, les algues, quand elles arrivent à terre et qu'elles s'échouent, après elles pourrissent, quoi. Et donc ça pose des problèmes je dirais presque d'ordre sanitaire à terre une fois qu'elles sont échouées, quoi. On voit bien en Bretagne, hein, les algues vertes, c'est pareil, hein, les algues vertes, il y a toujours eu des algues vertes, mais il y en a beaucoup plus du fait de l'activité humaine. Et quand il y a une forte accumulation et que ça pourrit, il y a des gaz qui s'échappent, qui peuvent être nocifs. Et donc, je pense que c'est un peu similaire avec les sargasses. C'est vrai qu'en parcourant les différentes sources d'informations, j'avais aussi découvert des articles qui disaient que c'était potentiellement, que ça pouvait aussi devenir une ressource. Mais je pense que si tu poses la question aux habitants de Guadeloupe, Martinique, aux Antilles, majoritairement, ils vont dire c'est un fléau. C'est de l'initiative de Springcard qui est membre de Cap Agir Ensemble et puis qui a sollicité Sabrina, donc qui est directrice du fonds de dotation Handicap Agir Ensemble, en lui disant on aimerait bien venir vous voir à Nantes, venir voir votre activité, comment vous accompagnez les personnes en situation de handicap. Et ce à quoi, évidemment, Sabrina a répondu positivement. Et puis, du coup, on a profité de la venue Springcard pour que moi j'aille rencontrer Springcard également, parce que j'avais eu la chance de rencontrer Alexandra lors de la Sardinia Cup. Mais Denis, qui est fondateur et le PDG de Springcard, j'avais jamais rencontré physiquement. Donc déjà, on a eu la chance de se rencontrer à ce moment-là et de découvrir un peu plus comment l'ADAPEI accompagne les personnes en situation de handicap en allant le matin à l'ESAT Cat West, c'est une entreprise en fait à laquelle tout le monde peut faire appel pour différents services, et on a justement découvert comment ils travaillent, leur outil de travail, leur organisation, et donc voilà, c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais eu la possibilité de faire ce type de visite, et j'avais un peu jamais osé non plus solliciter, je sais pas pourquoi, j'étais jamais rentré dans un ESAT ADAPEI ni un IME, ce qu'on a fait durant l'après-midi, donc institut médico-éducatif. Et voilà, je pense que ça m'a ouvert les yeux sur la manière dont l'ADAPEI accompagne les familles et les personnes en situation de handicap, les besoins qu'il y a aussi, parce que voilà, on est dans un IME, ce sont des jeunes de 12 à 20 ans. On est le jour de la rentrée scolaire, et puis forcément, on évoque comment on peut scolariser des enfants porteurs de handicap, les problématiques auxquelles sont confrontées les familles. C'est vrai qu'en étant jeune père de famille, moi, mon fils, il faisait sa rentrée le jour même. On se projette quand on se dit « Ah oui, effectivement, c'est quand même pas simple. Il y a beaucoup de besoins. » Et puis, il y a quand même des manques dans l'accompagnement. Donc, franchement, le travail qui est fait par les équipes en IME, moi, j'étais tombé des nues, quoi. Je trouve ça admirable, quoi. Franchement, je dis chapeau, quoi. Dès la rentrée, on a une course qui arrive, donc le défi Azimut, qui commence le 15 septembre. C'est une course qui marie une épreuve offshore de 48 heures. Un autre volet aussi qui est très intéressant, ça c'est le premier jour, c'est les runs. Un parcours qui est plus ou moins perpendiculaire à l'axe du vent. Donc c'est tout droit, à fond les ballons. Les partenaires sont invités à bord pour venir partager ce moment-là avec nous. Tout comme ils le sont lors du Tour de l'île de Groix qui a lieu le dimanche. Là, l'actualité, ça va être de préciser mon attrait, mon intérêt pour un bateau que j'ai identifié et qui pourrait être le bateau sur lequel je ferai le Vendée Globe 2024. N'hésitez pas à aller écouter, réécouter les différents épisodes, à liker et puis à commenter. Merci.